Bonjour à tous, bienvenue, merci de vous asseoir, bienvenue aux enfants, bienvenue aux plus grands, bienvenue à ceux qui nous visitent, une bienvenue toute particulière à Tony Kelly qui est ici devant et qui nous dira deux, trois mots à la fin. Bienvenue aussi à Roger et Dominique Sewell, j'ai vu Dominique, j'imagine que Roger, oui il est là aussi. Bienvenue. Ce matin, on peut lancer le premier slide. Là. J'aimerais vous parler d'un mot un petit peu compliqué, les enfants. J'aimerais vous parler de perspective. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, ce mot? Non, hein, j'ai bien pensé. Je pense qu'au niveau des adultes, ça va un peu mieux, encore que je ne sais pas. Mais j'ai prévu deux, trois choses pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la perspective. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image?
Un oiseau.
Est-ce que quelqu'un voit autre chose?
Un lapin.
Ok, on a un lapin. Est-ce que quelqu'un voit?
Un lapin.
Ah,
on a un canard, ouais. Okay.
Ah, on a trois options maintenant. Certains voient un lapin, d'autres un canard. Certains voient un lapin et un canard. Bon, alors c'est quoi? C'est un lapin ou un canard? Ah. Ok. Un autre exemple. Combien de bouts de bois est-ce qu'il y a sur cette image?
Quatre.
Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Là-bas, j'ai entendu un 3. Bon, ben, sur l'image, ils ont un petit peu le même problème. Hein. Le monsieur qui est à gauche, il dit il y en a 4. Puis il est vraiment sûr qu'il y en a 4. Et puis le monsieur qui est à droite, lui, il dit ah non, il y en a 3. Puis il est vraiment sûr qu'il y en a 3. Ah, il y a un problème là. Hein. C'est qui a raison? C'est les deux, peut-être. Ça dépend de la perspective, vous voyez. Bon, je vous montre encore un autre exemple ici. Qu'est-ce que vous voyez sur ce carton? Vous pouvez crier fort.
Du noir.
Vous êtes d'accord là-bas? Oui, ça va. Là, on est tous relativement d'accord. Du gris, du noir, bon. Hein, voilà, il y a des nuances de réponse, mais on est assez d'accord. Est-ce qu'un des enfants serait d'accord de venir vers moi? Peut-être, Robin, viens voir vers moi, t'asseoir ici. Non, tu ne veux pas? Qui veut? Ok, viens vers moi, viens. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois sur ce carton, toi?
Des arcs-en-ciel.
Ah, tu vois des arcs-en-ciel. Ça, c'est étonnant quand même. Hein. Alors, il y en a qui voient du noir, et puis ici, on voit des arcs-en-ciel. Comment ça se fait?
Vous êtes de l'autre côté du
carton. Ah, c'est ça. On a une perspective différente. Hein. On ne voit pas du même point de vue. Vous voyez depuis là-bas, et puis nous, on voit de l'autre côté du carton. Et qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté? Ah, voilà. C'est étonnant, hein, ça. Il n'y a pas de jaune. Oui, c'est vrai. C'est ma fille qui m'a aidé à faire ça hier. C'est joli, hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça, la perspective. Et puis, si on reprend cet exemple d'avant, on pourrait se dire que d'un côté, il y a Dieu qui a une certaine perspective. Et Dieu, lui, il voit quatre bouts de bois. Et puis nous, avec notre perspective, on est sur la droite. Et puis nous, on dit, ah non, il y en a 3. Eh bien, c'est qui a raison? Souvent, c'est quand même Dieu. Hein, parce que lui, il a une autre perspective que nous. Lui, il voit souvent plus loin, il voit les choses différemment. Il voit l'entier de notre vie. Hein, nous, des fois, on voit ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis on se dit, c'est un petit peu noir ma vie, je ne vois pas comment je vais me sortir de cette situation, peut-être je suis un peu triste aujourd'hui. Et puis lui il dit, mais non, regarde, il y a un arc-en-ciel. Hein? Donc ce qui est important en fait pour nous, c'est de se mettre du côté de Dieu, c'est d'aller vers Dieu pour pouvoir voir ce que lui il voit, pour avoir sa perspective à lui. Hein, puis c'est ce qu'on essaie de faire quand on vient au culte, quand on chante, quand on lit la Bible. On essaie de le connaître et puis d'apprendre à savoir comment est-ce que lui, il agit, comment il voit les choses. Et comme ça, on peut voir l'arc-en-ciel plutôt que de voir la feuille qui est toute noire ou toute grise. Ça va? Vous avez compris? Et puis tout à l'heure, les adultes, ils entendront parler de quelqu'un qui s'appelle Étienne. Et Étienne, c'est quelqu'un qui avait la perspective de Dieu. Alors vous, vous n'entendrez peut-être pas l'histoire, mais vous pourrez demander à vos parents, en rentrant à la maison, qu'est-ce que le pasteur il a dit à propos de ce Étienne? Parce que moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il avait comme perspective et puis qu'est-ce qui lui est arrivé. D'accord? Vous vous souviendrez? Oui? Ok, il y en a 1 sur 10 qui s'en souviendra, je suis déjà content. Très bien. Alors, à vous de jouer, merci.
Voilà, on peut se lever, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, quel bonheur de se retrouver tous ensemble autour de toi. Béni soit ton nom. Merci parce que c'est toi qui nous fais vivre, c'est toi qui anime nos cœurs, c'est toi qui anime nos louanges, c'est toi qui nous rencontre ce matin. Béni soit ton nom.
Avant le chant qui crée à nous. en avant, ne prenez pas tant de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais
à prendre place quelques instants, à fermer vos yeux et puis à écouter la lecture du psaume que Philippe a choisi pour ce moment de louange ce matin.
Nous lisons dans psaume 95, version du Semeur. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. À lui et la terre, ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit.
Mmh.
l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Je vous invite à vous lever pour entonner cette chanson.
L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire.
ou à l'équipe musicale. On chante des choses fortes, hein. Que le Seigneur entende ces paroles que nous disons devant lui. Les enfants, vous allez pouvoir rejoindre vos groupes de potes du dimanche. Les ados restent avec nous ce matin exceptionnellement, mais pour tous les autres enfants, il y a un programme Piccolo Bello prévu pour vous. Merci beaucoup à celles et ceux qui, dimanche après dimanche, prennent soin de nos enfants. Les ados, c'est les grands, c'est les plus grands.
C'est les tout grands.
C'est les tout grands du... Merci Thomas. J'aimerais remercier Éléonore pour la magnifique déco de la salle de culte. Ne manquez surtout pas un petit arrêt à l'escalier intermédiaire en redescendant. Est-ce que c'est le programme de l'école du dimanche, des potes du dimanche de dimanche passé? La carte au trésor que vous avez fait, je vous garantis que l'arrêt vaut le coup. Merci beaucoup hein, pour ce que vous avez fait dimanche passé et puis pour cette magnifique déco printanière. Ça fait du bien. C'est vrai, sur la porte, c'est très beau. Ne les prenez pas, je crois que c'est pour les parents des enfants. Hein. Lorsque j'étais en Thaïlande en février dernier, dans un contexte missionnaire évangélique assez large, lors de toutes les rencontres plénières de la conférence que j'animais, nous commencions par lire le psaume 95, que Prisca nous a remarquablement lu tout à l'heure. Et au cours des 10 jours de la conférence, pour chacune des rencontres plénières, nous l'avons fait 19 fois. 19 fois le psaume 95. Et pas seulement la première partie que j'ai suggéré à Prisca de lire. Pas seulement cette première partie tout en louange qui nous invite à dire la grandeur, la bonté de Dieu. Mais nous lisions aussi la deuxième partie. Nous lisions surtout la deuxième partie. Versets 7 à 11. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Meriba, comme au jour de l'incident de Massa dans le désert. Vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Et j'ai dit alors, c'est un peuple qui s'égare et qui ne fait aucun cas des voies que je lui prescris. C'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos. Fin du psaume. Fin terrifiante par certains côtés. Dieu qui dit, pour le peuple qui s'est racheté, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Rien de moins. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Le pays promis, ce n'est pas pour eux. Et dans le cadre de la conférence missionnaire, les gens qui animaient les temps de louange, l'introduction, nous rappelaient à chaque fois que nous étions devant une lecture responsabilisante. Ils nous disaient que nous n'étions pas là pour le fun. C'est beau la Thaïlande. Mais on n'était pas là pour profiter de la plage. On était là pour louer Dieu. Et nous n'étions pas là seulement pour louer Dieu, mais nous étions là pour l'écouter. Et nous ne venions pas seulement pour écouter Dieu, mais nous venions pour le servir, pour lui obéir. Parce que comme le début du psaume le dit, il en est digne. Notre grand Dieu est digne non seulement d'être loué, d'être écouté, mais encore d'être servi. Et aujourd'hui, la fin du psaume que nous avons lu pourrait être le résumé d'un long passage dans le livre des Actes des Apôtres. Un long passage que j'aimerais parcourir avec vous. On ne va pas le lire en entier, j'y reviendrai. Au chapitre 6 du livre des Actes, nous voyons comment les apôtres ont consolidé l'unité de l'Église, en particulier en confiant des tâches d'entraide matérielle à 7 hommes choisis par l'Assemblée. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est de survoler rapidement l'histoire de l'un de ces hommes. 7 hommes sont choisis, et dans la suite immédiate du chapitre 6, nous avons la fin du chapitre 6, et puis le chapitre 7, et l'histoire de l'un de ces hommes, Étienne. Étienne, qui ne s'est pas contenté d'organiser des distributions d'argent ou de vivres, Étienne, qui était un témoin de Jésus-Christ absolument remarquable. Et j'invite Thierry à lire pour nous en acte 6, les versets 8 à 15.
Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue dite des affranchis, composés de Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ses paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître de faux témoins qui déposèrent contre lui. « Cet homme que voici, dirent-ils, ne cesse de discourir contre ce lieu saint et contre la loi de Moïse. » En effet, nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et son visage leur apparut comme celui d'un ange.
Même un témoin rempli de l'Esprit, même un témoin rempli de grâce, de sagesse, de puissance divine, même un témoin qui fait des miracles, ne convainc pas tout le monde. Le message d'Étienne était si fort, si révolutionnaire, qu'il a suscité de la haine. Et la haine a débouché sur un procès avec de faux témoins, verset 13, et des accusations mensongères. Mais il y avait, comme souvent, un grain de vérité dans les mensonges des accusateurs d'Étienne. Est-ce qu'Étienne blasphémait vraiment contre Moïse et contre Dieu, verset 11? Ah non, certainement pas. Est-ce qu'Étienne discourait vraiment contre le temple et contre la loi de Moïse, verset 13? Probablement pas. Est-ce qu'Étienne disait vraiment que Jésus de Nazareth détruirait ce temple? Probablement pas. Est-ce qu'Étienne disait vraiment que Jésus changerait les coutumes que Moïse avait transmises? Ah, ça c'est probable qu'Étienne le disait, Peut-être que oui. Si Étienne a compris que Jésus est mort sur la croix une fois pour toutes, si Étienne a compris que le sacrifice du Christ rend tous les autres sacrifices caducs, alors oui, il y a quelque chose qui devait changer dans le peuple de Dieu. Il fallait absolument, à ce moment, comprendre qu'on devait passer de la religion à la relation. Il fallait passer de l'observation scrupuleuse de la loi à l'accueil généreux de la grâce. Un changement de paradigme. Et sans aucun doute, qu'Étienne disait que Jésus avait revisité la loi de Moïse. Si Étienne a repris les enseignements de Jésus sur le sabbat, sur l'alimentation, sur la future destruction du temple, alors oui, c'est sûr, les fidèles parmi les fidèles religieux pouvaient enrager et lui en vouloir à mort. Pour ces fidèles religieux, il aurait été plus juste pour eux de dire que Jésus a accompli la loi de Moïse et qu'il l'a portée à sa plus belle expression. Mais mes amis, quand on se sent menacé dans son identité religieuse, on ne s'occupe plus des nuances et on se radicalise et on accuse et on grossit le trait et on lance des pierres ou des phrases qui tuent. Comment est-ce qu'Étienne va se défendre ? Eh bien, Étienne, il va se défendre par un long discours qui retrace quelques grandes étapes de l'histoire d'Israël. C'est tout le chapitre 7. Alors, c'est un peu long à lire maintenant en entier. D'ailleurs, même quand on le lit pour soi à la maison, on a l'impression que c'est trop long. Puis, de toute façon, on sait tout ce qui est écrit. Puis, on a très vite envie de passer à la suite. Pourquoi c'est dans ma Bible, alors ? Il me semble que c'est là dans nos Bibles, parce que ce discours marque un tournant historique dans la mission de l'Église. Parce que ce discours fournit un argumentaire aux chrétiens d'origine juive et aux chrétiens d'origine païenne. Comment se fait-il que le propre peuple du Messie a rejeté le Messie ? Est-ce que c'est parce que Jésus, en fait, n'était pas le Messie ? Je l'entends aujourd'hui, hein, à Genève, dans certains mouvements. Jésus n'était pas vraiment le Messie. On attendait quelqu'un de plus. C'était normal que cet homme-là soit rejeté. Comment se fait-il que le propre peuple du Messie l'a rejeté ? Eh bien, c'est parce que ce peuple avait faux sur toute la ligne, comme souvent au cours de son histoire. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas de l'antisémitisme de dire cela. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Étienne qui le dit, un juif. Et Étienne tient ce langage-là devant le haut conseil du peuple juif. Il est le représentant, à ce moment-là, Étienne, d'une église composée uniquement de juifs. Il n'y a pas encore de païens dans cette église-là. Comme dit, on ne va pas le lire en entier, mais très rapidement, on peut prendre les différentes situations que Étienne évoque au chapitre 7. Abraham, versets 2 à 8. Abraham, appelé par Dieu lorsqu'il se trouvait sur une terre étrangère, Abraham qui marche avec Dieu sans avoir ni terre ni temple. Et l'alliance que Dieu conclut avec Abraham promet pas une terre, promet pas un temple, mais promet une descendance. Jésus, c'est tout. Joseph, versets 9 à 19. Petit-fils d'Abraham s'appelait Jacob. Et les 12 fils de Jacob sont à l'origine des 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus, ces 12 fils, pardon, de Jacob ont rejeté leur frère Joseph et l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Et Joseph est même devenu le sauveur de sa propre famille. Ça, c'est les ironies de Dieu, c'est génial. Et cette famille s'est finalement installée, non pas dans le pays promis, mais en Égypte. Et elle a prospéré en Égypte. Et puis Moïse, verset 20 et verset suivant. Moïse, c'était aussi un sauveur en puissance. Hein. Mais là encore, son peuple l'a rejeté. Une fois, tout au début de l'histoire, quand il a essayé de protéger un compatriote contre la violence d'un contremaître, X fois dans le désert, comme le verset 39 nous le dit, alors qu'il avait reçu de la part de Dieu des paroles de vie, Dieu l'avait envoyé comme chef, comme juge, comme prophète pour son pays. Puis dans le désert, il n'y avait pas de tente, pas de temple, juste une tente démontable qu'on transportait de lieu en lieu. Et c'est très important ça, parce que Moïse a annoncé que viendrait après lui un prophète qui lui ressemble. Autrement dit, un nouveau grand chef, un nouveau législateur, un nouveau sacrificateur. C'est qui ? Suivez mon regard. Et puis David et Salomon, versets 45 et suivants. Le grand David, fondateur de la royauté, auteur de nombreux psaumes, homme selon le cœur de Dieu malgré ses défaillances, David a servi Dieu dans le temple. David a servi Dieu dans le temple ? Ben non, il n'y avait pas de temple. Qui va construire le temple ? Salomon. Salomon en construit un de temple. Et quand il le construit, ben le verdict des prophètes, il est clair dans le chapitre 7 des Actes, au verset 48. Le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est embêtant ça. On se casse le dos à construire un temple, on se met en quatre pour organiser le service du temple, c'est une affaire qui roule et puis Dieu il habite pas là, mince. Tout ça pour ça. Au cours de leur histoire, les Israélites ont eu différents lieux de culte et parfois aucun lieu de culte. La tente dans le désert, le temple de Jérusalem, ce sont juste des outils qui aident les humains à s'approcher de Dieu. Parce que Dieu sait que nous ne sommes pas des âmes désincarnées. Parce que Dieu sait que nous sommes des êtres faits de chair, certains plus que d'autres, et de sang. Dieu sait que nous avons besoin de lieux pour manger, de lieux pour dormir, de lieux pour travailler, de lieux pour louer Dieu, de lieux pour nous prendre dans les bras, de lieux pour prier ensemble, de lieux pour pleurer ensemble. Dieu sait que nous avons besoin de lieux. Et notre église locale et la chapelle désormais quasiment vide, on les regarde comme ça, des outils importants, au service d'une communauté qui elle-même est au service de Dieu. Alors avec Abraham, avec Joseph, avec Moïse, avec David et Salomon, Étienne a retracé toute l'histoire d'Israël pour répondre aux accusations portées contre lui, pour montrer les réticences rencontrées, pour montrer les révoltes, la dureté du cœur. Et ce matin, si nous n'étions pas assez futés pour en tirer les leçons, et j'essaie de vous aider un peu, il y a la conclusion de ce discours qui frappe un grand coup. Et on va écouter la conclusion du discours. Acte 7, 51-53.
Ô vous, hommes obstinés, qui, comme de véritables incirconstis, gardez vos cœurs et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée.
L'histoire d'Israël montre que Dieu ne s'attache pas à un lieu précis. Jésus l'a dit à la femme samaritaine aussi. Ce n'est ni sur telle montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera Dieu, mais c'est par l'Esprit et en vérité. Jean 4, 21-24. Ce n'est pas le lieu qui compte, mais c'est la foi qui compte, comme celle d'Abraham. C'est l'obéissance qui compte, comme celle que Moïse voulait enseigner, l'obéissance du cœur. Et Moïse, ce n'est même pas le dernier mot de Dieu, parce qu'il en annonçait un autre. Il annonçait le Christ. C'est lui le dernier mot de Dieu. C'est lui que nous aimons, c'est lui que nous écoutons, c'est à lui que nous voulons obéir. Et voilà donc là le drame de la synagogue dite des affranchis. Voilà le drame du conseil des responsables religieux juifs, le Sanhédrin. Voilà le drame de la religion, en fait. Ils ont entendu un témoignage plein de sagesse et d'Esprit Saint. Ils ont vu ou entendu parler des miracles faits par Étienne et faits par les apôtres. Ils sont sûrement au courant de la vie et de l'enseignement de Jésus. Ils sont face à la nouvelle de la résurrection qui se répand. Ils savent même que de nombreux prêtres obéissent à l'Évangile, chapitre 6, verset 7. Et les religieux refusent de croire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba. Ce texte-là, forcément que les religieux l'ont lu, ce texte-là, il fait partie de la liturgie du temple. Ils l'ont chanté ou ils l'ont entendu chanter. Et ils sont tombés dans l'endurcissement. Ils sont tombés dans le refus de croire. Pas parce que les preuves auraient été insuffisantes, mais parce que les preuves les auraient amenés à changer de vie. Et je trouve cet exemple terrifiant. Terrifiant. Parce qu'il ne s'agit pas d'athées. Il s'agit de gens religieux qui étaient convaincus qu'elles étaient fidèles à Dieu et qui se plantaient complètement sur toute la ligne. La fidélité à Dieu, ce n'est pas l'observation des lois et des rites. C'est un amour qui vient du cœur. Je l'aime parce que je lui dois tout. Tout le reste, c'est de la garniture. La toute fin de notre procès est dramatique et on va finir avec ces quelques versets dans Actes 7, 54 à 60.
À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent foudrage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et, de toutes ses forces, lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira.
sont là, fous de rage, vociférants, emportés dans un tourbillon de haine et de violence. Verset 54. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne, lui, voit le Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu. Debout. Comme un témoin. Comme un avocat. Comme quelqu'un qui se lève de son trône pour accueillir le héros qui rentre à la maison. Comme le Fils de l'homme de Daniel 7. Parce que Jésus, c'est celui qui a reçu souveraineté, gloire, royauté éternelle. Et c'est en pensant à Jésus qu'Étienne est mort. Dans 15 jours, nous fêtons Pâques. Nous nous rappellerons que sur la croix, nous entendons « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sous une pluie de pierres, ici, une voix s'élève plus fort que les cris de la haine. Cette voix, elle dit, à la suite du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Pardonne-leur. Je trouve qu'Étienne, il nous propose un message lapidaire. Nous n'allons pas tous mourir tranquillement dans notre lit. Nous n'aurons pas tous le privilège d'avoir réglé toutes nos affaires, d'être entourés de nos proches et bercés par des CD de louanges. On peut mourir au bord de la route, avec les secours qui tardent à venir. On peut mourir dans la panique généralisée d'un naufrage, d'une prise d'otage ou d'un attentat. La maladie, la foudre, l'erreur médicale, tout est possible. Et Étienne, il nous propose un message lapidaire. C'est son exemple dont moi je veux m'inspirer. Quand viendra le temps de partir, et il viendra, je ne veux pas emporter avec moi la rancœur et la haine. À la suite d'Étienne, à la suite du Seigneur Jésus, je veux pardonner dès maintenant à ceux qui m'ont offensé. Autrement, ça ne sert à rien que je dise le Notre Père. Mes sentiments d'injustice, mes révoltes, mes blessures, je les remets à Dieu. Il sait gérer. Ultimement, voilà donc la prière que j'aimerais faire mienne. Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit. Je trouve qu'il y a une force incroyable dans le message lapidaire d'Étienne. Et en même temps, on pourrait avoir l'impression d'un certain gâchis. L'Église se structure, elle choisit 7 gars formidables, parmi lesquels Étienne. Et puis Étienne, il n'a pas le temps de faire grand-chose, puis il est mis à mort. Quel gâchis ? Pas vraiment. Déjà parce que Étienne ne pouvait pas savoir que parmi les responsables de sa mort se trouvait le futur apôtre Paul qui deviendrait à son tour témoin jusqu'à la mort. Saul de Tarse était là. Verset 58. Et puis qu'Étienne ne pouvait pas savoir que ses paroles, ses actes allaient peut-être, peut-être, toucher le cœur des gens de Mérin, 2000 ans plus tard. Aujourd'hui, si à travers Étienne, nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur. Revenons à Dieu si besoin. Revenons à Dieu si besoin. Ainsi, nous ne serons plus des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère, mais des saints entre les mains d'un Dieu aimant. Et c'est toute la différence entre la religion et la relation. Plus des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère, mais des saints et des saintes entre les bras d'un Dieu qui vous aime. Prenons exemple sur le courage et la confiance d'Étienne. Amen.
Je vous propose maintenant de prendre un temps de recueillement, de silence, de prière libre aussi, si vous avez envie d'exprimer quelque chose à Dieu en réponse à ce qu'on a entendu. Et puis tout à l'heure, on chantera le chant « Mon secours est en toi ».
les étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre,
La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Nous allons maintenant prendre la Sainte Cène ensemble. Et puis j'avais envie de reparler de ce passage où il y a le rideau qui se déchire dans le temple. Ce rideau qui se déchire, c'est l'accès au Père qui est restauré. C'est l'accès à la perspective de Dieu qui est restaurée. Finalement, si Étienne a pu voir Jésus debout à côté du Père, c'est parce que ce rideau a été déchiré. Il a vu une nouvelle réalité. Et au lieu de voir les pierres qui venaient contre lui pour le lapider, lui, il voyait la réalité du ciel. Ça paraît incroyable dans sa situation qu'il ait pu avoir la perspective de Dieu. Et puis qu'il aille jusqu'à pardonner ceux qui lui lançaient ces pierres. Impossible sans avoir cette perspective de Dieu. Alors ce matin, je vous encourage encore une fois à avoir la perspective de Dieu. Et peut-être vous réengager ou vous engager pour la première fois, je ne sais pas, devant Dieu alors que nous prenons cette communion ensemble. Vous avez entendu différentes choses ce matin. Philippe l'a dit, je vous le redis, n'endurcissez pas vos cœurs si Dieu vous a parlé. Prenez cette opportunité qui vous est donnée de dire oui Seigneur, je veux changer. Oui, tu m'as dit ça, eh ben, je veux aller vers toi, je veux recevoir ta perspective aussi sur ma situation, sur ma vie. Je veux voir ce que tu vois dans ma vie, je veux voir le péché peut-être qui est là, mais aussi voir ta grâce qui est là et qui couvre tout ça. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Pour ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, vous voyez quelques indications pratiques ici, et puis je vais demander aux personnes qui ont été désignées de venir, ils sont déjà magnifiques, ils sont déjà là, pour distribuer la Sainte Cène. Et je vais encore prier. Seigneur Jésus, merci. On ne peut pas assez te dire merci pour ce que tu as accompli sur la croix, pour ce voile qui a été déchiré, pour ce pardon qui a été obtenu pour chacun d'entre nous, et pour cette grâce qui se renouvelle chaque jour, à chaque instant, pour autant qu'on veuille bien l'accepter, pour autant qu'on veuille bien venir vers toi avec des cœurs tendres et pour recevoir cette grâce, Seigneur. Alors merci de nous faire grâce ce matin encore une fois alors que nous prenons cette communion ensemble et merci de nous unir par ton esprit. Amen. Voilà, nous allons maintenant prendre une offrande. Soyez vraiment libres dans ce temps de donner de bon cœur. Et si vous êtes de passage, voilà, sachez qu'il n'y a aucune obligation dans ce temps-là. Et puis, je vais demander à Paul Robert de venir prendre la parole. Merci.
Nous avons une visite ce matin que je suis content d'accueillir, que nous sommes contents d'accueillir. Il est de retour, j'ai envie de dire, à la maison. C'est Tony Uchetti, qui a été pendant des années avec Fanny, membre de cette église, et Tony a même été conseiller ancien parmi nous, et surtout, il a fait partie du groupe Mission, et on se souvient énormément de tout ce qu'il nous a apporté. Alors Tony, on voulait lui laisser la parole parce qu'aujourd'hui il est reparti au Congo avec Fanny et là-bas il œuvre notamment dans des questions médicales dont il va nous expliquer un tout petit peu où il en est. Parce que nous le suivons, nous pensons à lui, nous prions toujours pour eux, pour les deux bien sûr, et il est dans nos cœurs et nous sommes contents de l'avoir. Tony, peux-tu venir vers nous ? Alors nous allons l'écouter. Adieu, Tony. Ah bien, un plaisir de te voir. Je n'ai encore pas serré la main ce matin.
À cause d'Ebola, on ne se serre pas les mains chez nous. C'est la prévention.
Ah bon. Ici, non, ça va. On espère ne pas avoir Ebola, mais beaucoup de Saint-Esprit.
Merci beaucoup.
On aura l'occasion après de prier encore pour toi.
Bonjour à vous tous. Et moi personnellement, je suis dans la joie de voir cette opportunité que le Seigneur m'a offerte, de pouvoir venir prendre part à une réunion à Paris. Et je me suis dit, il serait vraiment bon de pouvoir faire un petit saut ici. Et c'était un privilège de la part du Seigneur. Et vous avez les salutations de tout le monde. Pour gagner du temps, nous allons aller très vite. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la famille Uchetti, et là, ce sont les dernières photos que nous avions prises. Ça, c'est ma droite. À ma droite, c'est Fanny et moi. Fanny, c'est au milieu. Et comme vous voyez, dans notre famille, nous avons une sœur et plusieurs frères. Et je suis à côté de Fanny. Et à l'extrême droite, c'est notre fils qui est au Canada, Edwin. Et puis, les deux de l'autre côté, c'est Christian, qui est le deuxième garçon, Edwin est le troisième garçon, et à la fin, c'est notre dernier, Serge. Par contre, de l'autre côté à gauche, c'est Patrick, avec son épouse, et notre premier et unique, jusque-là, petit-fils Mathieu. Eux, ils sont basés en Angleterre. Voilà, où est notre base? Pour ceux qui ne savent pas, nous venons de ce pays qui est en rouge, la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le deuxième plus grand pays de l'Afrique, depuis de vie population, probablement troisième. Et ici, maintenant, nous avons la carte de la République démocratique du Congo. Nous venons... Le pointeur ne marche pas. Ah oui, ça marche. Ok, voilà, c'est ça notre province. Nous venons de l'Ituri, la province de l'Ituri, qui fait frontière avec l'Ouganda et le Soudan. En fait, c'est le Soudan du Sud. Voilà, le Soudan du Sud est là et l'Ouganda est là. Ça, c'est le lac Albert. Voilà l'Ituri qui est une de 26 provinces que nous avons aujourd'hui au pays. Et ça, c'est la province de l'Ituri, au nord-est du Congo. Nous nous sommes basés ici à Bunia, qui est la capitale de notre province. Et cette province est subdivisée en 5 territoires, Aru au nord, et puis Mahagi en vert ici, et le territoire de Ndjougou en bleu le clair, et puis le territoire d'Irumu se trouve Bunia, la capitale, en jaune et en bleu le territoire de Mombasa. Et ce territoire est une des plus peuplées du pays, avec aujourd'hui minimum 6 millions d'habitants. En Suisse, je crois que vous êtes à 6 millions. Donc, nous sommes en compétition avec vous. D'ici 10 ans, nous allons atteindre la Suisse. Et c'est une province très riche. Comme vous voyez, nous avons de l'or. Nous avons du pétrole inexploité jusqu'à là, au bord du lac Albert. Nous avons beaucoup de poissons dans ce lac. Ceux qui sont arrivés à Bounia, en tout cas, ont déjà goûté le poisson du lac. Et beaucoup de tourisme. Et pourquoi ? Nous détenons des animaux rares comme l'okapi. Et nous avons aussi des grottes. Quand nous étions en Suisse, j'ai pensé beaucoup comment collaborer Valorbe et à Monroyo, puisque nous avons des grottes qui ne sont pas aussi bien exploitées comme Valorbe. Et nous avons, ces derniers temps, on a commencé même à cultiver les cacao. Dernièrement, je suis allé voir les champs de cacao, comme la Suisse aime le chocolat. Certainement, vous serez intéressé par la région. Voilà. Et c'est un pays, non seulement la province, mais un pays qui a d'énormes potentialités. Et du point de vue géologique, nous avons de premières réserves mondiales du cobalt. Avec les voitures électriques aujourd'hui, c'est tout le monde qui regarde vers la RDC. Nous avons la première réserve mondiale aussi de coltan. Et là, je crois qu'ici, tout le monde a des téléphones, Android, iPhone, 80% provient de la RDC. Et nous avons des réserves de diamants industriels. Je vois des dames avec des jolis colliers. Sachez qu'une bonne partie vient du Congo. Et l'or également. Et là, ça vient de l'Ituri particulièrement. Donc, vous comprenez les enjeux qui sont là. Et nous avons le fleuve Congo qui fait qu'aujourd'hui, ce fleuve, on peut construire le plus grand barrage en Afrique sur ce fleuve, le fleuve Congo. Et d'autres potentialités, c'est la forêt. Après le Brésil, l'Amazone, c'est la forêt, la forêt du Congo qui est très dense. Après le Brésil, en tout cas, c'est encore une fois ce pays. Bref, c'est un pays avec beaucoup de potentialités. Au lieu d'être ses bénédictions, aujourd'hui, je crois que c'est à la source de ses malheurs. Et donc, aujourd'hui, quels sont les vrais défis de la RDC? Je voudrais prélever deux seulement. Le premier, c'est la bonne gouvernance que nous manquons complètement. Et ça, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas une bonne gouvernance. Deuxième défi, la corruption. À cause de toutes ces potentialités, vous pouvez comprendre les enjeux qui entrent au niveau de ce pays. Bref, j'ai relevé les deux seulement et ça nous tracasse aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous le savez, au mois de décembre et au mois de janvier, j'ai envoyé beaucoup de lettres nouvelles au sujet des élections. Vous les avez reçues. Et comment se sont passées ces élections? Tout le monde m'a dit, Ouketi, chez vous, vous avez maintenant un nouveau président, vous êtes bien. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais vous donner les témoignages de quelqu'un qui, des gens, ce sont des prêtres catholiques, l'archevêque de Kinshasa, qui a fait une interview à la TV5, il y a environ 2 semaines. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus et puis c'est en fait une audio? Dessus. Mettez le curseur là-dessus et puis vous allez cliquer pour voir son interview. Faire passer les curseurs juste dessus, ça passe ou pas? Ah, je crois que je vois un bouton ici. Peut-être ça pourra marcher. Marche pas. C'est l'interview a résumé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous avons un nouveau président. Malheureusement, ce n'est pas le président qui a été élu par le peuple. Il a été fait nommer à cause de la mauvaise gouvernance que nous avons dans le pays. Il a été nommé. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est lui qui a prêté serment et on doit vivre avec lui. Voilà un peu le danger. Les premières décisions qu'il est en train de prendre, je suis tout à fait d'accord à peu près avec lui, puisque sans la décision qu'il ait prise, aujourd'hui, il ne serait pas avec vous. Parce que la maison Schengen, c'est lui qui a réouvert ça au bout d'une année de fermeture. Voilà, quels sont les sujets de prière que je vais laisser avec vous. La première, c'est l'avenir politique de la RDC, suite aux élections présidentielles et parlementaires. Deux, les élections du gouverneur vont se tenir le mercredi. Et aujourd'hui, il y a le débat. Chaque gouverneur au niveau de province présente le programme. Pour la province de Litourie, nous avons 4 candidats. Et aujourd'hui, des chrétiens veulent s'élever. Et je vais en arriver à ça à ma dernière diapositive. Et le ministère de Fanny, à travers la nouvelle direction du CEMADEF, et puis mon propre ministère, à travers la fondation de l'Ains Club International, en fait, je suis beaucoup plus occupé que quand j'étais à Genève. Pourquoi ? Puisque je suis le conseiller technique de cette fondation de l'Ains Club pour l'Afrique francophone. Ce qui fait que chaque mois, je voyage dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Le mois prochain, je serai au Madagascar et je serai au Burkina Faso. Et je suis aussi conseiller technique au niveau de ministère de pays, ministère de la Santé de 3 pays, l'Ouganda, la RDC et le Tchad. Et j'ai aussi des projets personnels. On voudrait ouvrir un service d'ophtalmologie pour servir 3 pays. Et bientôt, on va commencer un projet de recherche de développement des nouveaux médicaments à Réti, en Ituri. Et l'avenir de nos 4 enfants et de notre petits-enfants, que le Seigneur puisse vraiment les aider dans leur progression. Ici, c'est le sujet le plus urgent et le plus important. Ça, c'est le quatrième groupe, le quatrième candidat. Ici, c'était notre frère en Christ, Révérend Kato. C'est lui qui était le directeur de l'Institut biblique de Bounia, qui est devenu aujourd'hui l'Université Shalom. Et lui aussi s'est pointé candidat. Et ça, c'est celui qui serait son vice-gouverneur. Et aujourd'hui, à 14h, il va présenter devant le Parlement provincial ce programme. Prions pour lui. Et le mercredi, il y aura élection parmi les 4 candidats. Et je vous supplie de prier pour Kato, si telle est la volonté de Dieu, qu'il soit élu gouverneur. Et nous sommes vraiment interpellés pour pouvoir faire quelque chose dans ces pays où la bonne gouvernance n'existe pas et la corruption bat le plein. Je vous remercie.
On ne peut pas faire autrement que de prier pour toi et pour ta famille et puis aussi pour ce pays du Congo. Beaucoup d'entre nous ne le connaissent pas, peut-être qu'un jour on viendra. Mais on va prier aussi pour ce gouverneur Kato, tu dis.
Oui,
Kato. C'est un Kato ?
Kato.
Kato. Ô notre Dieu, merci pour la venue de Tony au milieu de nous. Merci parce que tu l'as gardé jusqu'à aujourd'hui avec sa famille, avec Fanny, ses enfants, son petit-fils. Merci pour toutes les bénédictions qui les entourent dans tout ce qu'ils font, dans les portes que tu ouvres. Oui, nous bénissons Tony tout spécialement dans son ministère et dans tous ses voyages et dans tout ce qu'il doit faire, les responsabilités qu'il a. Tu le bénis, Seigneur. Et qu'il reste au fond de nos cœurs, lui et Fanny. Oui, nous prions pour ce Congo, ce pays dont nous entendons parler depuis tellement longtemps, au niveau des missions en tout cas. Nous prions pour cette Iturie, tout spécialement, avec cette élection de ce gouverneur, M. Kato. Et si c'est dans ta volonté, dans tes plans, Seigneur, qu'il soit choisi pour diriger, gouverner cette province. Seigneur Jésus, nous pouvons que nous remettre encore une nouvelle fois entre tes mains et remettre ce pays et son avenir entre tes mains. Merci parce que tu es le Dieu qui tient tout dans ses mains. En ton nom, nous te prions. Amen.
Amen.
Voilà, merci. Nous allons passer aux annonces. Voilà, ça me répond à ma question. Je vois quelqu'un qui se lève et qui arrive. Donc, Johan va nous donner quelques annonces et puis Philippe nous donnera aussi une annonce après.
Merci. Bonjour à tous. Alors, pour les annonces de cette semaine, donc après le culte, le repas canadien pour le premier dimanche du mois, même pour ceux qui n'ont rien amené, vous êtes les bienvenus. Ensuite, cette semaine, donc mardi, rencontre du fil d'argent à 14h30. Jeudi, nous avons le conseil. Et vendredi, pour les plus jeunes, le caté qui continue de 19h à 21h. Dimanche prochain, pas de culte ici à l'église, puis c'est la célébration des rameaux qui sera au CEPOM à 10h. Et vendredi 19 avril à 18h, office à la Croix, c'est ici à l'EM. Voilà. Potentiel cet été à l'Institut biblique. Donc, vous avez le site internet pour avoir plus d'informations. C'est pour les 7 à 14 ans. Et puis, encore deux annonces et je laisse la parole à Philippe.
Merci, Johan. Dimanche dernier, je vous annonçais le décès de Bella Itti, la maman de Santoche. Le service aura lieu ici demain après-midi à 14h30. L'inhumation a lieu dans l'intimité familiale demain matin. Donc le service demain après-midi à 14h30 et la famille nous invite également à un verre de l'amitié de suite après le service. En vue de ce service, j'aurais besoin d'un petit coup de main tout à l'heure, dès après le culte, si on pouvait simplement aménager la salle en deux travées de 6 chaises avec une allée centrale, de l'espace aussi sur les côtés, et puis peut-être enlever ce premier rang si 4, 5 personnes, 6 personnes voulaient donner un petit coup de main, simplement pour la mise en place de la salle, deux travées de 6 chaises avec une allée centrale et deux allées sur les côtés. Je ne fais pas appel aux mains levées, mais merci d'avance pour votre aide, ainsi éventuellement un petit peu d'aide demain après le service pour la remise en place. Et puis, j'aimerais vous parler d'un beau projet, je vais faire très rapidement, mais simplement vous parler de ce projet Walk and Pray, marcher et prier, dans les rues de Genève. De Pâques à l'Ascension, ce sont quelques centaines de chrétiens qui vont sillonner les rues du canton de Genève en priant pour que le royaume de Dieu vienne s'y établir. Ce sont des marches qui peuvent se faire seules ou en petit groupe ou en duo ou en trio. Ça peut être ponctuel, ça peut être quotidien, ça peut être occasionnel. Et nous aurons la possibilité d'utiliser, pour ceux que ça intéresse, soit une application sur téléphone portable pour dire les rues qui ont été couvertes, soit éventuellement sur une carte physique. L'idée, c'est qu'à la fin des 40 jours de prière, toutes les rues du canton aient été parcourues par des chrétiens en prière. Je nous encourage à participer à ce projet que nous menons par ailleurs en collaboration étroite avec la paroisse protestante de Mérin. Ce temps sera conclu également par la grande journée mondiale d'évangélisation le 25 mai, une troisième édition cette année, et également avec la paroisse de Mérin, nous prévoyons un projet, probablement ici sur la place de Mérin Village, éventuellement dans le quartier des Vergers, mais une journée où simplement par notre présence, la distribution de Bibles, le contact avec la population, nous voulons témoigner de l'amour de Jésus. Ça sera donc le 25 mai. En tout cas, je nous encourage à saisir cette opportunité aussi dans le cadre de l'action œcuménique pour les communautés chrétiennes de Mérin. Quelques dates à retenir, on va essayer de les diffuser, il faut voir encore comment on va faire pour les diffuser, mais si vous avez des appareils photo, vous pouvez les prendre en photo. La première de ces dates, ce sera le lundi 22 avril À 9h30, rendez-vous au centre paroissial œcuménique de Mérin. Et puis ensuite, en petit groupe ou seul, nous pouvons simplement partir un petit moment, prier dans les rues de Mérin pour notre commune et ses habitants. Merci beaucoup pour votre attention.
Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Si vous le désirez, vous pouvez vous lever pour la bénédiction. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus, qu'il vous donne sa perspective durant toute cette semaine, qu'il fasse briller votre lumière et qu'il donne la saveur à votre sel, qu'il guide chacun de vos pas et qu'il vous protège. Bon dimanche à chacun. Et bon appétit.